Les racontars de Citrouille Amère. 10 minutes pour une œuvre d'art. Bonjour, c'est Citrouille Amère pour un nouveau racontar. La musique de l'introduction vous indique d'où provient l'œuvre que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Vous avez deviné, la Chine, bien sûr. Pour un occidental, cette œuvre est déroutante. D'abord son format, étroit rectangle vertical. Ensuite, la manière de peindre avec des lavis monochromes à l'encre de Chine noire. Somme toute, c'est un paysage assez minéral, avec une présence humaine très discrète. Au premier plan, des arbres noueux encadrent un sombre rocher. À la droite de cette masse noire, un éperon rocheux s'avance au-dessus d'un fleuve au flot agité. Sous l'éperon, de maigres arbrisseaux pendent dans le vide et végètent. De l'autre côté, au bord de la rivière, un pavillon chinois, au toit en pagode, est à peine visible. Il abrite un minuscule personnage, un lettré perdu dans ses pensées. À gauche du pavillon, une cascade tombe dans le fleuve. Cette cascade est alimentée par un large ruisseau serpentant sur un plateau, situé au pied d'un immense piton rocheux, couvert de végétation éparse. Le fond du tableau est occupé par d'autres pitons rocheux. La profondeur est rendue par une perspective atmosphérique. La perspective atmosphérique est une technique picturale de rendu de la profondeur par un lavis de plus en plus léger ou par des contours de moins en moins précis. Ce paysage est complètement imaginaire. Néanmoins, il évoque très fortement les célèbres paysages de la région de Guilin. Ces paysages ont toujours inspiré les peintres chinois. À gauche du gros piton rocheux du second plan, un petit poème de dédicace est accompagné d'un sceau. Ces poèmes, surajoutés à une œuvre, étaient une réaction émotionnelle d'un admirateur provoquée par l'œuvre. Dans la Chine antique, il était courant pour les collectionneurs d'apposer leurs sceaux sur les œuvres qu'ils affectionnaient particulièrement. C'est ce que l'on peut voir sur le très célèbre tableau de la période Han, 200 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ, représentant un magnifique cheval. Aujourd'hui, le cheval du tableau est littéralement pris dans une gangue rouge d'une multitude de sceaux. Le pavillon du pain, près d'une source, encre sur papier, 131 par 49 cm, Chitao, 1675, musée de Shanghai. Contemporain de Louis XIV, Chitao, dont le nom signifie « flot de pierre », est un peintre reconnu et estimé. Il a commencé sa carrière comme moine. Il est alors très jeune. Après avoir quitté la vie monacale, en compagnie d'un seul serviteur, il va parcourir la Chine en s'imprégnant de ses paysages. Chitao est classé parmi les peintres excentriques car il s'est évertué à ignorer tous les préceptes de la peinture classique chinoise, en particulier par l'usage de la couleur dans certaines de ses œuvres. Chitao marque encore son excentricité en publiant un album regroupant plus de 1000 peintures les plus laides de Chine. Vers la fin de sa vie, il se retire dans une vie d'ermite. Il a non seulement excellé dans la peinture de paysages, mais également dans la peinture de fleurs et d'arbres. La peinture de paysages, appelée en chinois « San Shui Hua », c'est-à-dire peinture de montagne et d'eau. C'est la forme picturale la plus noble en Chine, contrairement à l'Occident, où c'est un genre moins apprécié. La peinture chinoise joue avec le plein et le creux, évoquant évidemment le yi et le yang de la philosophie chinoise. La peinture chinoise est presque exclusivement réalisée en lavis de noir. C'est particulièrement le cas dans la peinture de lettrés. Les lettrés chinois, les mandarins, sont des fonctionnaires de l'Empire issus d'une longue et éprouvante série d'examens. De ce fait, les lettrés étaient des gens du pinceau. En effet, ces derniers les accompagnaient dans leurs tâches quotidiennes. C'est donc tout naturellement qu'ils utilisaient aussi le pinceau dans leurs activités récréatives, comme la peinture de paysage. Une peinture de paysage s'apprécie en circulant visuellement dans le tableau. En général, le cheminement est marqué par un chemin où souvent circule un petit personnage qui nous montre la voie, le Tao. Cette circulation nous fait découvrir les points remarquables du paysage. Les tableaux sont traditionnellement présentés sous forme de rouleaux. Les rouleaux horizontaux ajoutent un effet de surprise. Le spectateur découvre progressivement l'œuvre et parfois celle-ci le surprend par un coup de théâtre pictural. Il n'est jamais possible d'avoir une vision globale de l'œuvre. Les rouleaux horizontaux mesurent parfois jusqu'à plusieurs mètres de long. Les rouleaux verticaux, par contre, sont accrochés sur un mur. Le tableau est choisi par le propriétaire en fonction de la saison, pour une occasion particulière, par exemple pour séduire ou flatter un hôte. Il ne reste jamais accroché plus longtemps que nécessaire. Quelques heures, quelques jours. Les caractères chinois, par leur bel aspect graphique, se prêtent particulièrement bien à la calligraphie. Les Chinois affectionnent particulièrement cette expression artistique. Elle se matérialise souvent par un unique caractère tracé d'un seul jet. Un autre usage décoratif de l'écriture chinoise sont les sentences parallèles, courtes phrases écrites verticalement et dont les sens se répondent. Elles sont en général placées de part et d'autre d'une porte. Il nous faut citer l'usage étonnant de l'écriture chinoise fait par un auteur de la Chine ancienne. En effet, ce dernier, pour relater le voyage qu'il fit le long d'un fleuve, a joué avec les différents styles d'écriture pour animer graphiquement son récit. Il utilise l'écriture régulière pour décrire la rivière lorsque son cours est calme et l'écriture en herbe folle pour les passages où la rivière est plus agitée. Pour finir, Che Tao est aussi l'auteur d'un ouvrage très connu sur la peinture. Son titre, Propos sur l'art du moine citrouille amère. Tiens, cela vous évoque-t-il quelque chose ? Merci Marie, merci Quentin. Encore une fois, vous avez fait des merveilles. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain.
Bill Peradieu.